Vous écoutez les programmes du studio Kalangou, c'est l'heure du journal en français. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. L'arène des jeux traditionnels de Tillabéri abrite depuis quelques jours les populations déplacées de plusieurs villages du canton d'Azuru pour cause d'insécurité, à suivre leurs témoignages dans ce journal. Le département de Madarumfa accueille une caravane de sensibilisation sur les techniques de gestion des conflits liés aux fonciers et à l'insécurité, une initiative de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix du Niger. À suivre en partie magazine, les cas de violence exercés sur les enfants dans la région d'Agadez courant 2020-2021. Au micro, Hawa Maman, plusieurs villages du canton d'Anzourou dans la zone nord de la région de Tillabéri se sont vidés de leur population pour fuir les violences des groupes armés. Notre reporter Moussa Hassan s'est rendu à l'arène des jeux traditionnels de Tillabéri où sont hébergés ces déplacés. Voici son reportage.
Assis par groupe dans l'ombre de quelques arbres et le grand hangar de l'arène des jeux traditionnels de Tillabéri, au milieu de quelques effets qu'ils ont pu emporter dans la précipitation, les déplacés du canton d'Anzourou attendent toujours d'être pris en charge conséquemment. Tari Jibo du village de Gadabo nous raconte les conditions dans lesquelles ils sont arrivés.
Ils étaient venus à l'heure de prière du Maghrib. Ils sillonnaient le village sur leur moto. Et nous, précipitamment, nous avons quitté le village. Ils sont pris, nos animaux. Ils n'ont tué personne. Nous avons marché jusqu'au village de Kofun. De là-bas, on a pris des véhicules pour venir ici à Tillabéri. Jusqu'à présent, personne ne s'occupe de nous. Et pour l'école des enfants, n'en parle même pas. Et nombreux sont les enfants qui sont malades. Hier, j'ai effectué 3 tours au centre des soins. C'est vraiment pas facile.
Le regard absent, Ousmane Issiaka du village de Ziban explique leurs conditions de vie difficiles à l'arène.
Tout celui qui vient incendier tes greniers, cette personne ne te demande que de déguerpir d'où tu es. C'est à cause de ça, nous avons ramassé nos affaires pour venir ici à Tillabéri. Nous avons commencé à venir le vendredi. On est si nombreux que certains ne savent même pas vers qui s'orienter. Il y a un comité dans lequel nous avons des représentants et c'est ce comité qui s'occupe de la distribution des aides que les gens nous apportent.
Sur place, nous avons trouvé certaines ONG humanitaires intervenant dans la région qui s'activent pour la prise en charge sanitaire, nutritionnelle et psychosociale de ces déplacés.
Le département de Madarumfa, région de Maradi, fait partie des localités cartographiées au Niger à fort potentiel de risque, selon la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix. Cette institution sillonne dans la zone pour une caravane de sensibilisation sur les techniques de gestion des conflits qui peuvent être liés au foncier ou à l'insécurité. El Hadj Abdou Harouna, le secrétaire général du département de Madarumfa.
Suite à la cartographie nationale des risques et des vulnérabilités aux conflits potentiels élaborée par les dispositifs nationaux de consolidation de la paix, plusieurs communes ont été identifiées comme vulnérables aux risques des conflits et requièrent une attention prioritaire du gouvernement. Le département de Madarumfa, avec l'appui technique des forces de défense et de sécurité, s'est doté d'un plan stratégique de sécurité communautaire et de cohésion sociale où il se donne comme tâche de répondre à l'insécurité, surtout plus dans le sens de l'insécurité socio-économique, par la mise en place des mesures de prévention. Celles-ci doivent être de manière permanente, efficace, tout en étant une force de proposition. Pour le département de Madarumfa, les défis sécuritaires majeurs du moment sont le vol de bétail, le banditisme armé, le trafic de tout genre, ainsi que la prise d'otages contre rançon, avec quelquefois des conflits liés à la gestion des ressources partagées.
Des propos recueillis par Mohamed Maman. La ville de Tirozérine dans la région d'Agadez fait face depuis 2 jours à un problème d'approvisionnement en eau. Un incendie qui s'est déclaré dans les jardins a contraint les populations à déterrer les tuyaux qui alimentent la ville en eau potable pour éteindre les incendies. Les femmes parcourent 2 à 5 kilomètres pour s'approvisionner dans les puits. Le témoignage de Hadiza, habitante de Tiro, au micro de Amina Idé.
Entre avant-hier et hier, on a eu des problèmes d'eau, associés à un feu de brousse qui a ravagé la forêt et les jardins. Toute notre forêt de Tiro est en cendres. Parce que c'est les canalisations d'eau qui vont à Aris qu'on a coupées pour pouvoir éteindre le feu. Raison pour laquelle il n'y a pas d'eau. Ça fait aujourd'hui 2 jours qu'on traîne. Et c'est les femmes et les enfants qui en souffrent le plus. Certains font jusqu'à 5 km pour aller chercher de l'eau. D'autres 2. Nous, c'est dans les jardins qui ont été épargné par le feu qu'on s'approvisionne. Et c'est buvable parce que c'est l'eau des puits. Comme les eaux de pompe sont à l'arrêt, c'est l'eau des puits qu'on boit durant ces 2 jours. Maintenant qu'on nous trouve une solution pour nous épargner de cette souffrance.
La Commission nationale des droits humains a décerné ce matin un témoignage de satisfaction et de reconnaissance à Madame Sidi Assalama, directrice régionale d'Oxfam pour l'Afrique de l'Ouest, pour son engagement en faveur du respect des droits humains et des droits de la femme. C'est lors d'un panel sur le thème « Droits de la femme et développement durable » organisé à l'occasion de la Journée nationale de la femme nigérienne célébrée le 13 mai 2021. Madame Sidi Assalama au micro de Rafika Attaher.
Je suis très honorée pour cette, distinction que j'ai reçue de la Commission nationale des droits humains. Ce témoignage vient, une fois de plus, me motiver davantage et faire en sorte que mon engagement puisse continuer. Et puisque j'ai la chance aujourd'hui de travailler en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc cette motivation, cet engagement, je suis convaincue, aura des fruits concrets au niveau de 12 pays. Ça veut dire que ces 12 pays qui, à travers mes efforts, pourront exercer, en tout cas les populations pourront exercer leurs droits. Le travail en matière de défense des droits humains est un travail très difficile parce qu'il faut poser les questions qu'il ne faut pas, aller où il ne faut pas, parler quand il ne faut pas, faire peut-être des choses quelquefois qui dérangent et qui sont délicates. Mais c'est cela aussi l'exercice des droits humains. Donc il ne faut jamais baisser les bras.
Plus de 323 millions de francs CFA débloqués par la Cominac, la société qui exploite l'uranium à Avlit, pour dédommager les 700 travailleurs sous-traitants de l'entreprise minière après la fermeture de l'usine le 31 mars dernier. Les montants vont varier entre 100 000 à 3 millions de francs CFA, a expliqué Moukaila Abassa, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des mines, au micro de Moussa Maman.
Il s'agit, compte tenu de la fermeture de Cominac, d'apporter un appui au niveau des travailleurs là, de la sous-traitance. C'est 323 millions répartis entre environ 700 travailleurs sous-traitants. Cet appui-là, c'est à hauteur des droits légaux. Et ça veut dire que tout simplement, c'est un équivalent des frais qui correspondent aux droits de licenciement qui vont être donnés. Et comme c'est les droits légaux, ça dépend du salaire donc de l'employé et de son ancienneté. Donc c'est des montants qui vont varier de quelques centaines de mille à jusqu'à 3 500 000 et quelques. Et maintenant, les modalités, c'est qu'on a évité que cet argent-là atterrisse donc dans les comptes des entrepreneurs, parce que pour certains entrepreneurs, les comptes ne sont pas ouverts. C'est Cominac directement qui paye donc les agents à titre individuel.
La reprise des activités de l'orpaillage artisanal dans la région d'Agadez menace les sites touristiques avec l'utilisation de la dynamite par les orpailleurs dans l'extraction de l'or. Ces actes portent atteinte aux sites et richesses culturelles de la région. Abou Harouna, directeur régional du tourisme et de l'artisanat, tire la sonnette d'alarme au micro d'Anissé Karim.
Les orpailleurs utilisent des dynamites pour sauter certaines roches afin de pouvoir extraire l'or. Et ça là, a des conséquences surtout sur les sites touristiques. Certaines montagnes ont des gravures rupestres qui sont là depuis des milliers d'années. Et malheureusement, avec ces explosions-là, tout part. Pratiquement, on ne retrouve rien. Et vraiment, c'est un constat amer parce que les orpailleurs, leur objectif, c'est chercher de l'or. Et ils pensent que les gravures qu'ils trouvent au niveau des roches, ça ne les intéresse pas. On perd beaucoup de richesses culturelles qu'on ne peut plus reconstituer. Puis en plus, il y a des ossements de dinosaures, c'est devenu des pierres. Une fois qu'on utilise aussi les dynamites pour exploser, là aussi, ça part en poussière et on ne peut plus retrouver les ossements. Beaucoup de clients ont des destinations bien précises. S'ils viennent et partent, ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont l'habitude de retrouver. C'est comme si c'est un bien voyage. Avec la direction régionale des mines, c'est des activités de sensibilisation que nous avons programmées pour essayer de minimiser ces dégâts.
L'avenir des musées, se réhabiliter et se réinventer, c'est le thème retenu pour la célébration ce mardi 18 mai de la 44e édition de la Journée internationale des musées. Au Niger, le musée national Boubou Hamma de Niamey, qui rencontre quelques difficultés, développe des initiatives propres avec peu de moyens pour se maintenir. Haladou Maman, directeur général du musée national, explique sa démarche au micro de Mokhtar Amadou.
Comme toute institution, nous, notre politique, c'est de faire en sorte que les conditions de vie de ces musées soient améliorées, tant pour les animaux que pour les personnels. Quand on était arrivé, le musée n'a que 70 individus en termes de cheptel des animaux. Aujourd'hui, on a 119. Avec tous les problèmes qu'on a, mais quand même, on s'est dit qu'en matière de micro-réalisation, c'est-à-dire, il ne faut pas miser sur de gros moyens, il faut miser avec ceux dont vous disposez. Donc, notre politique, c'est vraiment la politique de l'escalier, c'est-à-dire les petites étapes. Il ne faut pas attendre des grands projets qui ne vont pas venir, ou même s'ils viennent, c'est pour être mal conçus et transformer les musées.
Quel est le thème retenu? retenu cette année au
Niger? Cette année, c'est les musées se réhabiliter et se réinventer. C'est-à-dire, on demande aux musées de se réhabiliter d'abord par rapport à leur conception, par rapport à ce qu'ils font. Les moyens, c'est vrai, on peut l'avoir, mais lorsque c'est mal utilisé, ça ne peut pas servir au musée. La formule pour nous des aides des musées, c'est de passer par le système de partenariat pour que les musées travaillent ensemble. L'État à lui seul, il ne peut pas réhabiliter le musée. Encore moins les personnels qui ne perçoivent qu'ils seraient indemnités.
L'association artistique Bafoune Didio ou Miroir de la Vie en partenariat avec le Centre culturel franco-nigérien de Niamey lance les activités de la troisième édition du festival Rire à Niamey qui se tiendra du 17 au 22 mai 2021 à Niamey. Le comité d'organisation, dans une conférence de presse, a indiqué que parallèlement au festival, des ateliers de formation des jeunes humoristes et des spectacles sont prévus. Abdelaziz Hiro, le président du festival, parle des particularités de cette édition au micro de Rabi Issoufou Mekan.
Cette troisième édition a commencé ce matin avec des ateliers de formation en booking d'artistes, qui est un atelier qui va permettre désormais d'avoir des agents d'artistes. Il y a aussi la formation des formateurs qui est animée par Adama Daiko. Aussi, l'atelier en initiation. La particularité de cette troisième édition est déjà deux choses. Nous avons pensé à rendre hommage à nos aînés, comme parrain artistique Cheikh Kotondi, Alishina Alakai et Pipo. Le vendredi, il y aura le cabaret des Rires à Niamey. C'est la soirée 100% humour nigérien. Il y aura une vingtaine de jeunes nigériens qui vont se produire en humour stand-up. Et le samedi, nous aurons le vieux père Adama Daiko et Zébal Traoré de la Guinée. Nous aurons Momo l'intellectuel qui est l'actuel prix Ouistiti d'or du Burkina Faso. Et nous aurons aussi Chromosome du Bénin.
À Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Gaskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fouma 99 MHz.
Parti Magazine, une centaine de cas de violence exercée sur des enfants ont été enregistrés courant 2020-2021 à Agadez, selon la Direction régionale de la protection de l'enfant. Ces violences sont de plusieurs formes et ce sont les filles qui sont le plus concernées, souligne le divisionnaire en charge de la protection de l'enfant, Souleymane Issaka. Il est interrogé par Moussa Maman.
Pour toute la région d'Agadez, on dénombre une centaine de violences exercées à l'endroit des enfants. Et parmi ces violences, on peut citer par exemple la négligence. Parce que qui dit négligence dit quand même le non-respect de certains droits de l'enfant. Il y a la maltraitance. On a recensé en 2020 une dizaine de cas de maltraitance d'enfants. Malheureusement, c'est parfois dans le cercle familial que ces maltraitances sont exercées. Il y a ce que nous appelons les pires formes de travail des enfants. Parce que un enfant qui est contraint malgré lui à exercer un travail qui dépasse ses compétences physiques, c'est-à-dire cet enfant-là est quelque part victime de violence.
Parmi les enfants, quel est le genre qui est le plus touché par ces violences?
On retrouve beaucoup plus ces violences exercées en rendant des jeunes filles que des jeunes garçons. Parce que par nature, les enfants-filles sont beaucoup plus vulnérables que les garçons.
En cas de violence sur un enfant, comment peut-on agir?
La prise en charge passe d'abord par soit le référencement, un enfant violenté qui nous est référé, ou bien par signalement. Le référencement, c'est-à-dire, c'est quand, par exemple, une structure étatique ou non étatique nous réfère directement un enfant victime de violence. Il y a aussi ce que nous appelons le signalement. Une personne tierce peut nous signaler, par exemple, un cas de violence exercée sur un enfant dans n'importe quel endroit de la commune. Et nous, on a cette obligation d'aller constater les faits. Il y a aussi la détection active. La détection active consiste à se rendre dans un endroit où on est supposé rencontrer des cas de violence exercée sur les enfants afin de nous rendre compte par nous-mêmes de l'existence de tels phénomène.
Après une dénonciation, quelle sera la suite de la procédure?
Il y a ce que nous appelons au niveau du service de protection l'ouverture d'un dossier de protection. Ça consiste à prendre toutes les mesures en vue d'apporter une réponse à ce problème de protection dont est victime cet enfant. Et ce n'est pas juste des papiers que l'on remplit, non. C'est toute une procédure qui peut aboutir jusqu'au cabinet du juge des mineurs s'il y a nécessité.
Du Et c'est la fin du journal de ce 18 mai 2021. À suivre le forum en français rediffusion, femmes et élections, la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Présentation Samira Rouafi. Bonne réception.